Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur CNews pour 90 minutes info, toute l'actualité et les débats avec nos invités qui sont déjà là, bien sûr. Pierre Lelouch, bonjour, bonjour ravi Pierre, de vous bonjour. Accueillir. Jean-Michel Fauvergue,
bonjour.
Bonjour Jean-Michel Fauvergue et Jérôme Dubu, bonjour, soyez le bienvenu. On se retrouve dans quelques instants pour les débats, mais d'abord un point sur l'actualité, Mickaël Dorian.
La ville de Paris interdite aux voitures ce dimanche jusqu'à 18h et hormis sur le périphérique, la capitale est réservée aux circulations non polluantes. Vélo, roller, trottinette, skateboard, aux piétons et usagers des transports en commun, a expliqué la mairie dans un communiqué. Les deux roues et les véhicules électriques sont concernés par l'interdiction. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Le gouvernement a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une liaison électrique entre la France et l'Irlande d'environ 575 km. Cette liaison est censée renforcer la sécurité d'approvisionnement des deux pays. Sa mise en service est prévue pour 2026. Le projet, estimé à environ 1 milliard d'euros, doit aussi réduire la dépendance de l'Irlande de son voisin britannique dans le contexte du Brexit. Et puis l'état de catastrophe naturelle reconnu en fin de semaine prochaine en Guadeloupe. L'annonce a été faite aujourd'hui par Gérald Darmanin. La tempête Fiona a causé d'importantes inondations et fait un mort. Une amélioration est attendue aujourd'hui. La tempête se dirige désormais vers le sud de Porto Rico.
Et prochain point avec l'actualité dans une demi-heure maintenant sur CNews. Vous le connaissez, ce protocole, nos rendez-vous et nos balises avec l'information. Première thématique pour nos débats, Emmanuel Macron qui veut remettre la réforme des retraites rapidement sur la table. Le président envisage un amendement dans le cadre du budget de la sécurité sociale qui sera examiné dès le mois prochain par le Parlement. Et ce matin, sur CNews, François Bayrou, le président du Modem, qui est un allié du chef de l'État, a estimé qu'il fallait éviter le passage en force.
Ce qui me semble nécessaire de voir, c'est qu'il existe en France un grand courant réformiste, social réformiste, qui est prêt à avancer sans renier du tout ses positions, et il n'y a aucune raison que qui que ce soit renie ses positions, mais qui est prêt à avancer pour que le pays, lucidement, soit capable de s'organiser comme les temps l'exigent. Voilà. Or, ce courant réformiste-là, si on choisit une méthode, on va dire, brutale, ex abrupto, comme on aurait dit en latin, si on choisit cette méthode-là, ce courant réformiste va entrer en contradiction, en confrontation, en opposition avec, avec les responsables du pays. Est-ce qu'on a besoin de ça ? On a besoin du contraire.
Une réforme ne fait pas toujours l'unanimité, rarement. Pierre Lelouch, dans ce qu'est-ce que ça veut dire qu'une réforme est systématiquement un passage en force?
Non, moi ce qui me fascine, c'est le jeu de M. Bayrou.
C'est-à-dire
J'ai eu longtemps à négocier des choses avec lui. Le Béarnais, il sait y faire. Hein. Pour exister, il sait y faire. Là, il vient d'être nommé, il était dans le quinquennat précédent, commissaire général au plan, excusez-moi. Ensuite, il vient d'accepter cette mission redoutable d'être le patron du Conseil national, non pas de la résistance, mais de la refondation. Donc c'est le monsieur qui va porter les réformes pour le président de la République. Arrive la première réforme, paf, coup de batte de baseball, je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas passer dans la loi de la Sécu parce que c'est trop violent. Écoutez, depuis le temps qu'on parle des retraites, ça a commencé sous Fillon, on a fait voter une partie sous... Avant Hollande, donc sous Sarkozy-Fillon, après ça s'est arrêté, après Macron a repris la balle, mais il ne l'a pas transformé, il s'est arrêté au milieu. Là, il s'agissait de le faire, il est conscient qu'il faut le faire, il veut le faire rapidement, il a raison de le faire rapidement d'ailleurs. Et que dit son allié centriste? Ah ben aussi vous faites ça, le camp des réformateurs, sous-entendu les centristes, vont se dresser contre vous.
Sachant que le Modem n'a pas rejoint Renaissance.
Moi, je vais vous dire un truc.
Qui a vu le jour hier officiellement.
Voilà. Je vais vous dire une chose. Ça, c'est le. Il dit ça le soir où Renaissance est supposée naître.
Exactement.
Voilà. Donc, c'est vraiment. Le missile est parfaitement guidé. Tout ça, ça sert à le faire exister. Je trouve que c'est de la politique politicienne par rapport à l'objectif. Le pays a besoin d'une réforme de retraite. J'aurais souhaité que le président le passe par... De toute façon, il n'a pas la majorité absolue. Donc il est obligé de passer soit par un amendement, soit par un texte qui va prendre des mois et des mois.
Donc en force, Pierre Louche.
Bien sûr, c'était la logique même. D'ailleurs, Borne a dit qu'elle était prête. Non, mais M. Bayrou a torpillé l'affaire, donc on est reparti pour la gloire et on risque de ne pas avoir de réforme de retraite. Et on va encore dire merci M. Bayrou pour le rôle majeur dans la politique française qui, moi, m'exaspère. Ça fait 40 ans que ça dure et très franchement, c'est pas le nouveau monde. Hein.
Je cède la parole à Jean-Michel Fauberg et à Jérôme Duby dans quelques instants, mais j'apporte à votre sagacité, à votre réflexion, la déclaration de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui lui estime que ce n'est pas un passage en force, si cette réforme passe tout simplement par la loi.
Bien sûr. Passer par la loi, quelle que soit la loi, ça n'est pas un coup de force. Dans une démocratie, vous votez les textes, notamment les réformes des retraites, par la loi. Donc ça, c'est un choix qui appartient au président de la République et à la Première ministre. Mais dès lors que vous passez par la loi, quelle que soit la loi, ça n'est pas un coup de force. C'est un choix démocratique de la majorité élue par le peuple français.
Votre réaction, Jean-Michel Fauvert, comment les Français vont apprécier ces déclarations, ces petites luttes intestines, cette communication, cette politique politicienne, comme le disait Pierre Lelouch, sur une réforme qui est tout de même très importante. Oui. La retraite, ça parle à tout le monde.
Déjà, une réaction sur ce que dit Bruno Le Maire, c'est tout à fait exact. Ça va passer par la loi, libre aux députés de voter, de ne pas voter. On se doute que normalement, ça passera au 49-3 parce que la majorité sur le budget va être difficile. Mais ça passera quand même par la loi. Ça sera discuté, ça passera par la loi. Donc on est dans le cadre d'une réforme démocratique sans aucun problème de ce point de vue-là. Et on est dans le cadre d'une réforme qui maintenant est urgente à faire. Moi, j'avais à la précédente législature, je défendais le projet sur la réforme des retraites par points, qui me paraissait un beau projet. On n'en est plus là, on est sur une réforme paramétrique qu'il est urgent de faire parce qu'on a un problème de financement. Donc il faut passer assez rapidement cette réforme-là. Et sur la réaction de M. Bayrou, je rejoins un peu ce que dit Pierre Lelouch quand même. Moi, le MoDem, je les ai fréquentés pendant 5 ans. On se demandait pas... s'ils allaient nous trahir, mais quand est-ce qu'ils allaient nous trahir?
Ah bon, vous avez découvert ça?
Oui, mais moi j'étais jeune, je m'excuse, j'étais jeune député.
Oui.
Vous étiez
naïf.
J'étais très naïf, moi. Allez. J'étais très naïf.
Non, on les pratique depuis longtemps.
Ouais. J'ai aussi découvert le fait que dans la loi que je portais, sécurité globale, sur laquelle on avait beaucoup discuté avec le MoDem, et moi où j'avais discuté personnellement avec Monsieur Bayrou, il était pour cette loi, mais les députés MoDem n'ont pas voté non plus. Non. Soyons sérieux dans cette affaire-là. Il faut que cette réforme-là passe, c'est nécessaire, c'est urgent, qu'elle passe dans le cadre du PLFSS, du projet de loi de finances de la sécurité sociale, ça me semble opportun. Il faut qu'elle passe le plus vite possible pour qu'on soit pas en difficulté.
Alors, elle est urgente, elle doit passer le plus vite possible, Jérôme Dubu, mais pourquoi doit-elle passer aussi vite? Quel est le projet très exactement
de...
Est-ce que les Français
cette
ont compris?
Cette affaire de réforme des retraites, ça fait non pas 20 ans, ça fait 30 ans. Le premier qui a commencé à la réformer, c'est Édouard Balladur en 1993. Bon, il a fait une réforme qui est passée quasiment inaperçue alors qu'elle était fondamentale. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de... Bon, ça a effectivement permis d'avancer, mais ça n'a pas suffi. Il y a eu une réforme effectivement sous Sarkozy, Fillon, il y a eu une réforme avec la loi Touraine, que la gauche d'ailleurs a complètement oubliée, alors qu'elle augmente les annuités année après année, les annuités de cotisation.
Qui produit ses effets.
En fait, dans cette affaire, vous avez trois solutions pour réformer les retraites. C'est à peu près ce que tout le monde a fait, et nous sommes les derniers à l'avoir fait. Tous les pays européens ont réformé leur système de retraite. Certains y sont passés d'ailleurs pour sauver leur système de retraite par répartition, c'est ce que nous voulons faire. Il s'agit de sauver notre système de retraite par répartition, pas du tout de passer par une retraite par capitalisation, du tout, non. Sauver notre système. Et pour sauver ce système, il faut le réformer. Et pour le réformer, il y a trois solutions. Première solution, vous augmentez les cotisations, je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour. Deuxième solution, vous baissez les pensions, pas à l'ordre du jour non plus. Il reste la troisième solution, qui est de modifier le temps de cotisation. Soit vous le modifiez en repoussant l'âge de la retraite.
65 ans.
64, 65, à voir, hein, en discussion. Soit vous augmentez, comme la loi Touraine d'ailleurs, le nombre d'annuités. Hein, parce qu'aujourd'hui, on va vers 43 ans. Et donc, la solution, on verra ce qu'il en sort, la solution qui me paraît la plus efficace aujourd'hui, c'est de repousser l'âge de la retraite. 64, 65. Moi, je préférerais à la limite 65, parce que puisqu'on y va, allongé jusqu'à 65, puisque ça va faire un certain nombre de tensions dans la société française, c'est clair.
En sachant que dans beaucoup de pays d'Europe, on est déjà à 67 ans, quand même.
Absolument.
Absolument.
Parce que l'allongement de la vie est valable.
66, 67.
Il semble d'ailleurs, et c'est ce que disait aussi François Bayrou ce matin dans le grand rendez-vous sur CNews Europe 1, c'est que les Français ont conscience et sont plutôt favorables.
Ça on verra.
Pour une grande partie, à travailler plus longtemps.
Quand vous réclamez réformiste, c'est ce que nous a tenu comme propos M. Bayrou, vous ne vous opposez pas à une réforme fondamentale.
Mais en tout cas,
l'erreur qui a été faite lors du quinquennat précédent, j'étais contre cette réforme depuis le début, c'est de modifier deux fois cette réforme. Un, en mettant le système par points, qui était une erreur fondamentale. On ne peut pas se mettre par un système par points en France, c'est trop compliqué. Deuxièmement, l'affaire de l'espérance de repousser l'âge de la retraite a été un peu amoindrie par cette affaire de système par points qui a tout masqué.
Ce qu'attendent les Français, je vous cède la parole dans un instant, Pierre Lellouche, c'est Sylvain Maillard, le vice-président de Renaissance à l'Assemblée nationale, qui va nous le dire, puisque en effet, les Français sont assez interrogatifs quand ils sont face à cette réforme et avec toutes les tribulations qu'elles peuvent générer autour. On écoute Sylvain Maillard.
Sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est qu'il faut qu'il y ait une réforme et le président de la République s'est engagé à ce que cette réforme soit déployée avant l'été 2023. Ça c'est très clair, c'est un programme, un engagement que nous avons tous pris. Maintenant, est-ce qu'il doit être voté à travers le PLFSS, donc le budget de la sécurité sociale, ou bien un projet de loi un peu plus tard? En réalité, je ne suis pas sûr que ce soit ça que les Français attendent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient des retraites qui soient financées, qui soient équilibrées et qu'un budget de la nation qui soit tenu. C'est ce que nous faisons.
Jean-Michel Fauvergue, on est encore en train de rechercher la bonne méthode, finalement, puisque même dans le camp du gouvernement, chez M. Maillard, il y a plusieurs possibilités, mais il faut réformer absolument.
Oui, bien sûr.
Mais comment ?
Le but, il est clair, il faut réformer, et cette réforme paramétrique, elle est nécessaire et importante. Sylvain Maillard dit le faire dans le PLFSS ou le faire dans une autre loi. Sauf que le PLFSS, on sait maintenant à peu près, d'une manière à peu près sûre, que le budget passera... Sauf surprise et vote des LR, mais ils sont en pleine période électorale, ça serait difficile. Mais il passera par le 49-3. Mais le 49-3, on peut le faire qu'une fois par an. Donc un autre texte sur lequel on mettrait la réforme des retraites comporterait le danger qu'il ne soit pas voté et que ce soit un échec. Donc il faut passer ce texte le plus rapidement possible dans le cadre du PLFSS.
Mais on a le sentiment, Pierre Lellouche, que certains Français le prendraient sans doute comme ça, qu'on leur impose cette réforme sous le caractère de l'urgence, et notamment la CFTC qui s'est exprimée en disant si ça passe par ce fameux PFLS, en tout cas le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, ce sera une opposition frontale de la part des syndicats.
Oui. Donc, sur le point de savoir si c'est un coup de force ou pas un coup de force, c'est pas un coup de force parce que, comme M. Fauvergue le disait fort justement, ça passera, et Bruno Le Maire aussi, c'est la loi. On le fait par 49-3 ou pas 49-3, c'est le Parlement et la loi. Donc, question de légitimité ne se pose pas. Le sujet, c'est quoi ? C'est que le gouvernement craint, ou certains craignent, Bayrou craint et d'autres craignent, que si jamais on passe très vite à cette réforme, on se retrouve avec un mouvement de masse dans la rue, à un moment très compliqué, où ça peut télescoper plein d'autres choses. L'augmentation des prix de l'énergie, les angoisses liées à la guerre en Ukraine, la récession qui menace. Et c'est ça qui est un choix très compliqué pour le chef de l'État. Maintenant, il est chef de l'État, donc quand on gouverne, on doit faire des choix. C'est risqué dans ce cas-là, mais attendre et s'engluer dans de nouvelles négociations infinies avec les mêmes syndicats qui vous disent « oui, il faut absolument nous consulter », alors que tout a été vu depuis des années, que tout le monde connaît les tenants et aboutissants de tous les systèmes de retraite dans le pays. Donc, c'est reculer pour mieux sauter dans une situation qui ne va pas s'améliorer. Parce que, croyez-moi, après l'hiver qu'on va passer, ça va être très compliqué.
Ça sera pire, peut-être.
Il n'y a donc pas de timing parfait. Si j'avais un conseil à donner au président de la République, c'est faites-le. Et ne vous laissez pas influencer par vos soi-disant amis qui, en fait, sont là pour vous piéger. Et en plus, il a un autre problème, Macron. C'est que dans 2 ans, politiquement, il est cuit. Parce qu'il sera ce qu'on appelle aux États-Unis un lame duck. C'est-à-dire que tout le monde aura la tête à son successeur. Donc il faut qu'il fasse le job pendant qu'il est là. Donc il ne peut pas attendre.
Il est cuit, il sera cuit.
Non, je veux dire, il est cuit politiquement, en sens où... Non,
mais il est élu pour 5 ans. Même.
Non, mais je veux dire, sa force...
Non, mais, sa
on pensera déjà à l'après-Macron.
Peut-être que
dans
je m'exprime un peu vite. Je dis cuit au sens où sa capacité d'entraînement sera très entamée par le fait que la guerre de succession aura commencé de tous les côtés. Et que son impulsion, sa force d'impulsion, sa légitimité maximum, il l'a maintenant, il vient d'être réélu. Dans des conditions pas simples, vu la conjonction de l'Assemblée nationale et le contexte économique. Donc c'est maintenant qu'il doit agir. Je lui dirais, n'attendez pas 2 ans, parce que dans 2 ans, ce sera plus compliqué.
Je pose une question peut-être un peu naïve, Jérôme Dubu, mais sur un sujet aussi important que les retraites et que cette réforme dont on parle en effet depuis 30 ans, qui est un vieux serpent de mer qu'on n'arrive pas véritablement à régler, le timing n'est jamais parfait, etc., etc. Est-ce qu'une consultation des Français ne serait pas pertinente ?
Non, je crois que ce n'est pas le moment. On vient de consulter les Français pour les élections présidentielles, pour les élections législatives. On a vu le taux d'abstention qui était extrêmement élevé. On voit un désintérêt de la part des Français pour la politique. Alors ça englobe la totalité de la classe politique française. Donc c'est un phénomène très profond. Et je ne crois pas que ce soit le moment. Mais je crois qu'il faut le faire maintenant. Ça, je suis d'accord avec nos deux interlocuteurs. Il faut le faire maintenant, sinon on ne le fera pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, 2023 va être une annus horribilis. Ça va être épouvantable, c'est clair. Et donc, si on ne le fait pas maintenant, la conjoncture, vous avez vu les prévisions des conjoncturistes qui sont très mauvaises pour la croissance en 2023, partout. Hein. L'Allemagne va être en récession, la Chine va vraisemblablement avoir une croissance de 2 à 3%, ce qui est très faible pour elle. Nous, on nous donne 1%, mais ça peut être moins. Et donc, on aura une situation économique et sociale très compliquée. Donc, pour moi, il faut la faire maintenant.
Jean-Michel Fauvergue. Vous vouliez réagir sur ce sujet. Après, j'aimerais vous interroger également sur la crise énergétique, sur le nucléaire et sur ce que pensent les Français, d'ailleurs, de l'utilisation du nucléaire.
Oui, complètement d'accord. Moi, je regrette la réforme des retraites à points parce que ça me semblait le système le plus juste. Mais c'est vrai que c'est intellectuellement, c'était plus difficile à comprendre. Et là, on est sur une réforme beaucoup plus simple. Et là, on y adhère ou on n'y adhère pas. Mais la plupart des Français se rendent compte qu'on peut pas faire différemment. La faiblesse que disait Pierre Lelouch sur le quinquennat Macron est une faiblesse en fin de quinquennat, peut paraître une force maintenant. Et je pense que voilà. Le président de la République veut réformer. Il a annoncé dans sa campagne présidentielle. Donc il veut réformer. Et on sait, le quinquennat précédent nous l'a prouvé, qu'il va réformer ça. Et c'est le moment idéal. Il n'y aura pas d'autre moment après. Je ne sais pas s'il y aura une autre fenêtre de tir après.
C'est pour ça que c'est un seul coup, l'opération Bayrou. Vraiment. Mais la déclaration de François Bayrou ce matin dans le Grand Rendez-vous. C'est un très sale coup. Et j'ajoute, vous avez posé une question sur le référendum. Je dirais même aujourd'hui, on est dans de tels niveaux de difficultés et d'angoisse dans l'opinion que vous mettez n'importe quelle question, la réponse sera non. La dernière chose à faire, c'est d'envoyer des référendums sur des sujets aussi compliqués aujourd'hui, parce que vous êtes sûr, quel que soit le mérite, quelle que soit la question, vous aurez une réponse négative.
On verra s'il y a des répliques ou pas à ce qu'a fait Bayrou ce matin.
Il n'y a pas que dans cette réforme, il ne faut pas prendre en compte uniquement le recul de l'âge. Il faut prendre en compte un certain nombre de critères qui sont la pénibilité, qui sont le problème de l'employabilité des seniors, parce qu'on est le pays qui a l'employabilité des seniors la plus faible, et ça, personne n'en parle, et c'était très important. Et puis, les carrières longues. Ces trois éléments-là doivent être intégrés dans la réforme des retraites.
Et un minima.
Et un minima social.
Juste un petit mot sur la crise énergétique.
Et sociale, en fait.
J'aimerais qu'on prenne juste quelques minutes avant aussi d'évoquer la rentrée ou l'une des rentrées de Marine Le Pen avec le Rassemblement National au Cap d'Agde dans le cadre de la crise énergétique et les économies auxquelles les Français vont devoir consentir, les sacrifices, même avec un hiver qui risque d'être compliqué. Il y a un sondage IFOP JDD qui révèle que 75% des Français sont favorables au nucléaire et c'est majoritaire, Pierre Lelouch, quelle que soit la classe d'âge, quelle que soit l'orientation politique. Oui. Ça veut dire qu'il faut, il faut vraiment passer par le nucléaire ?
Mais bien sûr, j'ai toujours pensé...
Pas d'autres alternatives, les autres alternatives...
Vous parlez à quelqu'un qui a négocié pour la France la fusion thermonucléaire à Cadarache. Donc moi j'ai passé 40 ans de ma vie à travailler sur l'énergie électronucléaire. Je ne connais pas de meilleur système d'énergie décarbonée que le nucléaire. Nous avions la meilleure politique nucléaire du monde. Rappelez-vous, nous avions, car nous l'avons perdu, Pompidou, au moment de la crise de 73, la précédente grande crise énergétique, Pompidou et Messmer ont lancé un programme de 56 réacteurs. 6 par an. 6 par an. Ouverts chaque année sous Giscard et jusqu'à Mitterrand. Et on a constitué 75% d'électricité nucléaire. Là-dessus, il y a eu des accidents en Ukraine
et à Fukushima.
Il y a eu la montée de mouvements écologistes très puissants en Allemagne d'abord, puis en France. Et progressivement, on a cassé le jouet. On a cassé le jouet. Les décisions ont été bloquées. Mitterrand n'a entrepris aucune modernisation du programme en cours. Il n'y a pas eu de suite au réacteur PWR à eau pressurisée que nous avions. Sous Hollande, pareil. Sarkozy a lancé autre chose qui était les EPR, avec les problèmes que connaissent la filière aujourd'hui. Et Macron, il faut avoir l'honnêteté de dire que Macron a fermé Fessenheim, c'est lui qui a fini, et a annoncé la fermeture de 12 réacteurs supplémentaires. Aujourd'hui, fort heureusement, il a changé
d'avis. Il change d'avis.
Oui, mais enfin, que de temps perdu, que de signaux contradictoires. Quel cafouillage à notre industrie. Nous avions juste, nous avions les turbines avec Alstom vendues aux Américains, EDF qui a été endetté de tous les côtés avec dette énorme qui se chiffre en dizaines de 2 points de PIB au moins de dette rien que sur EDF. On a cassé la filière française de PWR. Et après, on s'étonne qu'on ait des difficultés aujourd'hui. On n'a plus les personnes. Les équipes nucléaires qui ont fait le programme de 73 sont soit à la retraite, soit ont été virées. Donc il faut redémarrer tout ça.
Encore.
On a cassé le jouet. Et je suis franchement très en colère. Quand on avait 75% d'énergie nucléaire, d'électricité nucléaire, qu'aujourd'hui, en pleine crise, on a la moitié des réacteurs en rade parce qu'on n'a pas investi, je dis que nos gouvernants porte une grande part de responsabilité.
On va prendre la direction du Cap d'Agde maintenant, où vous l'avez entendu tout à l'heure sur CNews, une partie du discours de Marine Le Pen. Yohann Uzaï est avec nous, envoyé spécial CNews, pour nous raconter un discours qui a été particulièrement énergique. Yohann, quel est l'état d'esprit de Marine Le Pen aujourd'hui ?
Oh, c'est une Marine Le Pen tout sourire qui ostensiblement a voulu afficher son optimisme lors de ce discours de rentrée. Il faut dire d'abord qu'elle arrive en force à l'Assemblée nationale, 89 députés. Elle entend peser évidemment dans les débats qui vont s'ouvrir, notamment dans le vote du budget. Elle votera contre évidemment, elle l'a dit ici à la tribune ici du Palais des Congrès, mais ça n'était pas une surprise. Marine Le Pen donc très optimiste. Elle voit même le ciel du parti, l'horizon du Rassemblement national limpide. Écoutez.
Ciel s'est dégagé. Et l'horizon, que beaucoup croyaient obscurci pour le mouvement national, est désormais limpide. Les fausses valeurs se sont démonétisées sur le marché électoral. Les puissances installées ont été neutralisées quand elles n'ont pas été effacées. Les grands projets de premier ministrable ont pris la poussière et une énorme couche de poussière. Politiquement, je crois pouvoir le dire, nous avons vécu une révolution électorale de grande ampleur, une révolution pacifique, une révolution démocratique, un événement qui pose le socle du grand basculement politique qui s'impose au fil des ans et peut-être maintenant au fil des mois. Ce mouvement, mes amis, je le crois inexorable.
Un horizon politique dégagé, donc, selon Marine Le Pen, pour le Rassemblement national. Le résultat des élections législatives qui permettent également au RN de voir son avenir financier s'éclaircir lui aussi. Et puis, autre motif de réjouissance pour Marine Le Pen, Éric Zemmour, lui, est très affaibli. Il ne représente plus réellement de menace pour son parti. Les fausses valeurs sur le marché politique se sont démonétisées. Voilà comment Marine Le Pen a qualifié Éric Zemmour sans jamais le citer. Un discours de rentrée longuement longuement eh bien, dévolu à la crise, au pouvoir d'achat, l'énergie, le thème de la campagne qu'elle a développé évidemment tout au long donc, de cette campagne de 2022. Marine Le Pen qui eh bien, maintient le suspense quant à sa probable, possible quatrième candidature. On sent bien quand même qu'elle se prépare à cette échéance. Ça ne fait vraiment pas de doute quand on a pu lui parler ici au Cap d'Agde. Elle semble se préparer, mais évidemment, il est beaucoup trop tôt pour le dire.
Merci, merci Yoann Uzaï avec Antoine Durand au Cap d'Agde donc pour ce discours de Marine Le Pen. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants, l'actualité politique encore avec nos invités, mais également l'Union des étudiants juifs de France et son président Samuel Lejoyeux qui sera avec nous pour évoquer notamment ce sondage IFOP pour le JDD et des signes de dégradation de la transmission de mémoire de la Shoah. A tout de suite sur CNews.
Miam, miam.
Alors ça se passe bien avec tes potes?
C'est super.
Et ben moi, ce soir, c'est parmentier de bœuf charolais effiloché de Marie.
Moi, le bœuf, c'est cuisson façon pot-au-feu.
Comme Marie.
Et je recouvre avec une purée de pommes de terre.
Ouais, pas comme Marie.
Voilà.
Avec Marie, c'est dressage gourmet et raffiné.
Ah, envoûtant, même.
Comme Marie.
Je crois que je vais rentrer finalement.
Je crois.
Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos recettes sont sans conservateur.
90 minutes info, les débats reviennent avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'actualité, Mickaël Dorian.
En Marche devient officiellement Renaissance. Hier, les militants ont approuvé à plus de 80% les nouveaux statuts et la nouvelle direction emmenée par Stéphane Séjourné. Dans une vidéo diffusée hier soir, Emmanuel Macron a déclaré que l'unité et le dépassement étaient le cap qu'il souhaitait donner et que sans unité, les extrêmes l'emporteront. Les délégations officielles affluent à Londres à quelques heures des funérailles de la reine Elisabeth II. Joe Biden, lui, est arrivé hier soir en compagnie de son épouse. Ils font partie des 2000 invités attendus demain matin à l'abbaye de Westminster. Ce soir à Buckingham Palace, le président américain se joindra aux autres chefs d'État, dont Emmanuel Macron, réuni par le roi Charles III pour son premier grand rendez-vous diplomatique. 9 milliards d'euros, c'est le montant que la France va investir dans le secteur spatial sur 3 ans. Ces investissements majeurs s'inscrivent dans le cadre de la stratégie définie par Emmanuel Macron. Est également incluse la prochaine contribution française au budget de l'Agence spatiale européenne. Elle sera votée lors de la conférence ministérielle en novembre à Paris. Et puis Mathias Pogba, placé en détention provisoire, le frère du footballeur Paul Pogba a été mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels. Son avocat, Maître Bouzrou, entend contester cette décision. Il estime que son client n'a commis aucune infraction pénale. 4 autres suspects ont également été mis en examen et incarcérés dans cette affaire.
Et sur le plateau de 90 minutes info, nous évoquons à présent la mémoire de la Shoah et des signes de dégradation de la transmission de la mémoire du génocide juif. Dans un sondage IFOP pour le JDD et pour l'Union des étudiants juifs de France, son président d'ailleurs, Samuel Lejoyeux, est en duplex avec nous. Je vous cède la parole dans un instant, Samuel Lejoyeux, mais d'abord les explications à ce sujet concernant ce sondage d'Elisa Lukavski.
86% des jeunes de 15 à 24 ans ont entendu parler de l'Holocauste. C'est ce qui ressort de cette étude IFOP pour le journal du dimanche et pour l'Union des étudiants juifs de France. L'école conserve donc son rôle fondamental de transmission de la mémoire du génocide juif. À titre de comparaison, ils sont seulement 49% à avoir entendu parler du génocide des Tutsis au Rwanda. Pourtant, dans ce sondage sur la Shoah, certains chiffres inquiète. Si les jeunes sont informés, certains relativisent ce qui s'est passé. 10% des interrogés considèrent la Shoah comme un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes. Seuls 69% disent que c'est un crime qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, ce qui signifie qu'un jeune sur 3 est sur une logique de relativisation. Même proportion concernant la place de cet enseignement à l'école. Ils sont 34% à estimer que la Shoah est un thème trop abordé dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements comme la guerre d'Algérie ou encore la traite négrière. 35% évoquent même des blagues ou encore des plaisanteries qui ont pu avoir lieu en classe lors de l'enseignement de cette thématique. Des chiffres qui minimisent donc le poids de l'histoire et qui forcément préoccupent.
Elisa Lukavski, des jeunes qui donc relativisent l'Holocauste. Est-ce que Samuel Lejoyeux, c'est à cause de la désinformation, à cause d'un travail de mémoire qui n'est plus satisfaisant selon vous ?
Bonjour, je vous remercie pour votre invitation. Alors tout d'abord, avant de traiter évidemment des problèmes qui sont nombreux, et vous avez raison de le dire, j'aimerais quand même saluer les professeurs d'histoire, les institutions mémorielles, toutes les personnes qui finalement se saisissent de cette question de la transmission. Parce qu'on a quand même 86% des jeunes qui connaissent la Shoah, qui en ont entendu parler. On a également sur le Veldiv 70%, là où on était à 30% il y a 10 ans. Donc on a quand même une progression de la transmission de cette mémoire de la Shoah. Et c'est quand même, ça c'est à noter, je pense. Maintenant, il y a des zones d'ombre, il y a des problèmes, ça c'est évident. Et ils sont, je pense, dus à une forme d'instrumentalisation de la Shoah par plusieurs acteurs sur plusieurs domaines dont, évidemment, il faut également parler.
Samuel Lejoyeux, n'y a-t-il pas néanmoins un problème quelque part dans les modes d'enseignement, notamment quand 34% des jeunes estiment que l'Holocauste est un thème trop abordé?
Il y a un contexte, effectivement. On voit qu'il y a une forme de complotisme, toujours, qui existe sur cette question de la Shoah, comme si trop parler de la Shoah, ce serait toujours trop, ce serait toujours au détriment de quelque chose. Oui, on voit bien là pondre quelque chose qui est de l'ordre du complotisme, quelque chose qui est de l'ordre de l'antisémitisme. On voit bien d'où ça vient, d'ailleurs. Ça vient des réseaux sociaux, où encore 30% des jeunes ont vu des contenus révisionnistes et négationnistes. Ça vient également, évidemment, de l'extrême droite qui a réouvert ses débats sur l'évidence de la participation de Pétain, du régime de Vichy à la déportation. Et ça vient également, et ça faut le dire, et je crois que ce chiffre est également très intéressant, ça vient de toute cette importation du conflit israélo-palestinien. 54% des jeunes estiment que la Shoah est instrumentalisée par Israël pour justifier sa politique. Comme si, voilà, on allait, en utilisant la Shoah, délégitimiser l'État d'Israël dans son ensemble, délégitimiser finalement au peuple juif, enlever au peuple juif son droit à l'autodétermination. Tout ça, effectivement, c'est des éléments qui sont très inquiétants, je crois.
Un point pour terminer avec vous, Samuel Lejoyeux. Selon vous, que faut-il faire pour rétablir une transmission plus juste? J'entends par là l'enseignement et la manière de transmettre, en effet, ces morceaux d'histoire trop importants même.
Je crois qu'il faut surtout laisser les historiens, laisser les professeurs, laisser les associations comme la nôtre, qui organisons dans les universités des témoignages, qui organisons auprès des étudiants des voyages de la mémoire en Pologne, les laisser travailler et arrêter systématiquement de faire de la Shoah une arme politique contre les Juifs. On l'a vu dans les manifestations anti-vax, j'en ai parlé sur un certain nombre d'acteurs politiques qui, je crois, ont une responsabilité. Chacun a une responsabilité. On est dans une situation où la parole des témoins de la Shoah, des témoins directs, est de plus en plus rare. Je crois que si on veut maintenir ces chiffres qui sont bons, malgré tout, de la connaissance des jeunes sur la Shoah, il ne faut pas banaliser son instrumentalisation.
Merci Samuel Lejoyeux, merci de nous avoir accompagnés sur CNews. Juste un rapide tour de table avec nos invités sur ce sujet avant d'entrer plus avant sur la politique. Jérôme Dubu, sur la responsabilité de tous, comme le disait Samuel Lejoyeux, sur la transmission.
Je m'étonne qu'on s'étonne de ces chiffres. Ça fait des années que l'antisémitisme progresse en France, les chiffres sont là, et encore, on n'enregistre pas toutes les plaintes, et il y en a énormément, premièrement. Deuxièmement, il y a quand même, on le sait, un certain nombre d'établissements scolaires, je ne vais pas donner des noms précis, de départements ou de villes, où on ne peut plus enseigner la Shoah, où on ne peut plus enseigner ce qu'est l'antisémitisme, où on ne peut plus enseigner ce que c'est qu'Israël. C'est quand même invraisemblable. Et maintenant, on est en train de s'étonner de ces chiffres qui sont effectivement très inquiétants. Moi, je trouve que notre interlocuteur est très naïf, très très naïf. Je trouve très gentil, hein, très très gentil, mais très naïf. parce que la situation est très mauvaise. Et qu'on ne nous ressorte pas encore l'affaire de l'extrême droite. Enfin, je me souviens quand j'étais plus jeune, effectivement, il y avait un antisémitisme d'extrême droite qui était symbolisé par M. Forisson, qui était un révisionniste, qui a été condamné à plusieurs reprises. Aujourd'hui, l'extrême droite n'est plus symbole de l'antisémitisme, on sait très bien.
Pierre Lellouche, pourquoi ces chiffres sont inquiétants ?
Pardon de reparler de moi, mais une des choses dont je suis à la fois le plus triste et le plus fier dans ma vie politique, ça a été de faire voter, il y a maintenant 20 ans, en 2003, une loi qui porte mon nom et qui double les peines en cas d'attaque physique, raciste ou antisémite. Donc la notion de crime avec une intention, ou de délit avec une intention raciste, a été mise dans cette qualification a été mise dans le code pénal, et malheureusement, on a vu qu'elle a dû être utilisée dans beaucoup de cas, à commencer par le jeune Ilan Halimi, mais tous les autres cas de violence contre les Juifs, uniquement parce qu'ils étaient Juifs en France aujourd'hui. Donc ce sondage, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que tout le monde a entendu parler de la Shoah, bien sûr, mais il dit qu'une partie de la jeunesse refuse de considérer que c'est un crime à part, ou même que c'est important. Mais cette évidence-là, si j'ose dire, elle est complètement cohérente avec la transformation de notre société. Quand vous pensez qu'en Île-de-France, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres des démographes et même de l'Institut d'urbanisme d'Île-de-France, qui datent de 2011, après une étude de l'INED de 2008 qui s'appelait Trajectoire, on a en Île-de-France près de 30% en 2011 et aujourd'hui 40% des jeunes qui sont soit immigrés, soit issus de l'immigration. Donc ces jeunes-là, ils ont une autre mémoire. Ils ont une mémoire de la guerre d'Algérie, ils ont une mémoire des traites négrières parce que c'est un élément constitutif de leur identité. Et ces mémoires-là, elles rentrent en conflit avec l'Holocauste, qu'ils nient pour d'autres raisons qui sont liées au conflit israélo-arabe. Voilà toutes les raisons qui expliquent cette affaire.
En quelques secondes, Jean-Michel Fauvergue, avant que l'on passe au reste de l'actualité politique.
Et c'est justement le rôle de l'école de fusionner les mémoires et de faire en sorte d'apporter notre contribution républicaine à cette lutte contre l'antisémitisme. Je veux juste, puisque j'ai que quelques secondes, dire que, on parlait de l'extrême droite, parlons de l'extrême gauche. Parlons des débats qu'il y a eu récemment à l'Assemblée nationale, avec des textes portés par l'extrême gauche, quelques députés communistes qui se sont fourvoyés dans cette affaire-là, et où on parle plus d'antisémitisme ouvertement, mais on parle d'antisionisme. On a changé les mots pour dire exactement la même chose et détourner l'objectif.
L'actualité encore, Élodie Huchard du service politique de CNews nous a rejoint.
Bonjour
Élodie, puisque dans l'actualité, Adrien Quatennens, visé par une main courante déposée par son épouse, se met en retrait de son poste à la France Insoumise. C'est ce que le député du Nord a diffusé dans un communiqué. Pourquoi ? Pour quelle raison ?
Eh bien, ça faisait plusieurs jours qu'il y avait cette polémique, effectivement, dans un contexte de divorce entre Adrien Quatennens et sa femme. Et donc, il a voulu faire preuve de transparence, d'abord, et revenir sur un certain nombre de faits. D'abord, il déplore ce qu'il appelle un acte de malveillance politique qui consiste à faire fuiter dans la presse le contenu d'une main courante contre la volonté clairement exprimée de la personne l'ayant déposée. Alors, il explique un petit peu leur vie privée. Et puis, surtout, il explique le contexte dans lequel a pu être déposée cette main courante. En disant ceci, il parle donc de sa femme, elle dit l'avoir faite dans le seul but de laisser une trace de nos altercations en cas de détérioration du climat autour de notre divorce. Et puis surtout, il revient sur un certain nombre de faits, un certain nombre d'épisodes de disputes, dit-il. D'abord un premier où il lui aurait saisi le poignet lors d'une dispute. Autre épisode où il dit lui avoir pris son téléphone, elle aurait alors tenté de le récupérer, elle lui a sauté sur le dos et donc en voulant se dégager, elle se serait cogné le coude. Et puis il parle d'un autre épisode de lui-même. Je pense que Céline a pu évoquer un autre fait daté d'un an, où dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, j'ai donné une gifle. Je l'ai donnée alors que cela ne me ressemble pas et cela ne s'est jamais reproduit. J'ai profondément regretté ce geste et je m'en suis alors beaucoup excusée. Alors évidemment aussi, la raison pour laquelle il fait ce communiqué, c'est pour les répercussions politiques, puisqu'il dit qu'il veut effectivement prendre congé, se mettre en retrait de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi. Par un communiqué de la France Insoumise, on apprend que cette décision décision a été prise en concertation avec les instances. Et puis une autre polémique a suivi, déclenchée par Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé à deux reprises sur les réseaux sociaux. La première fois, il dit ceci: la malveillance policière, le voyeurisme médiatique, les réseaux sociaux se sont invités dans le divorce conflictuel d'Adrien et Céline Catenins. Adrien décide de tout prendre sur lui. Je salue sa dignité et son courage. Je lui dis ma confiance et mon affection. Ce tweet est très mal passé dans toute l'opposition. Aurore Berger qui dit, je cite, qu'il y a une indignation à géométrie variable. Les féministes aussi qui sont montées au créneau contre ce tweet. Et donc, dans la foulée, Jean-Luc Mélenchon a fait un tweet, on va dire, un petit peu un mea culpa en disant: Céline et Adrien sont tous les deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée, mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
Merci. Avec le rétropédalage de Jean-Luc Mélenchon sur son compte Twitter, on va y revenir dans quelques instants. Juste la situation, le choix d'Adrien Quatennens, je pense, Jean-Michel Folair, qu'il n'y avait pas d'autres options, d'autres solutions. Quand, même si c'est du domaine de la vie privée, c'est un homme public, c'est un homme politique, il n'avait pas d'autre choix
que de
se mettre en retrait.
On est à une époque où vie publique et vie privée sont mélangés. C'est une bonne chose quand il s'agit de cas comme ça. Et les choses ne restent jamais longtemps cachées. Alors on parle de fuite, on s'inquiète sur les fuites, etc. Mais les fuites, il y en a tout le temps. Il faut le savoir. Et je pense qu'Adrien Quatennens n'est pas si naïf que ça. Donc effectivement, à partir du moment où il reconnaît aussi des coups, une gifle en particulier, donc il le reconnaît lui-même, on est dans une situation qui va lui échapper. Et on peut légitimement, dans ce cas bien précis, puisqu'il reconnaît, on peut légitimement se poser la question de savoir si il doit continuer à exercer ses fonctions de député. Pour moi, la réponse, elle est claire, c'est non. Un député de la nation ne peut pas d'abord frapper qui que ce soit, en particulier une femme, en particulier sa femme, et continuer à siéger à l'Assemblée nationale où il va voter des textes contre ça, quoi. C'est pas possible. Je vois pas comment on peut faire.
Votre sentiment, Jérôme Dubu, est-ce que c'est embarrassant pour la suite de sa carrière politique? Est-ce que c'est embarrassant également pour la France insoumise?
C'est embarrassant, d'autant que c'est pas la première fois à la France insoumise, puisqu'on a une succession de saisons. Au printemps, c'était à Abouaf qu'il a fallu exfiltrer alors qu'il était candidat aux élections législatives, vous vous souvenez de l'affaire. Cet été, c'était M. Coquerel qui a fait l'objet d'accusations, effectivement. Alors
fondées, il y a eu une enquête, d'ailleurs, pour harcèlement et agression sexuelle.
En tout cas, Coquerel. L'automne, c'est M. Quatennens. Donc l'hiver, je ne sais pas ce qui va se passer à la France insoumise, mais c'est une succession d'affaires, alors que ce sont des gens, et notamment M. Quatennens, qui, à chaque intervention, nous donnait des leçons de morale. Il ne s'est pas privé de nous donner des sons de morale systématiquement. Donc voilà, moi
je
trouve
la perche, Jérôme Dubu. Je vous rends la parole dans un instant, mais regardez ce que Adrien Quatennens disait sur BFM en juillet dernier au sujet de l'affaire Abad, notamment. Il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles et y lutter drastiquement en s'organisant pour ça.
Non, mais c'est ce que je vous dis. Quand vous reprenez ces déclarations, c'est un florilège de déclarations. Alors, moi, je crois qu'en politique, il faut faire très attention. M. Quatennens est jeune. Je ne sais pas s'il aura un avenir politique après cette affaire. Mais en tout cas, il faut faire très attention à ces déclarations et ne pas donner des leçons de morale systématiquement à ses adversaires ou à ses collègues.
Pierre Lelouch, votre sentiment sur la situation et sur le soutien de Jean-Luc Mélenchon?
Un, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce couple qui divorce. C'est toujours délicat et difficile, un divorce. Mais il a reconnu lui-même avoir été violent et avoir frappé sa femme. À partir du moment où les faits sont établis par lui-même, en plus, c'est très compliqué de rester à l'Assemblée nationale, il me semble, surtout que dans un climat où chacun est très attentif aujourd'hui aux violences contre les femmes. On a quand même des problèmes de féminicide en permanence dans ce pays. L'Assemblée doit renforcer sans arrêt le dispositif législatif. C'est très ennuyeux d'avoir quelqu'un qui a un rôle important dans sa formation politique, qui se livre à ce genre d'acte, qui reste député. Donc je regrette de dire qu'il s'est mis dans une situation proprement impossible. Quant à Mélenchon, je comprends pas ce que
signifie... on revoit le premier tweet qui est la première réaction, elle est arrivée très rapidement.
Je ne sais pas ce que c'est que la malveillance.
La malveillance policière et le voyeurisme médiatique. Ça veut dire que les médias parlent de cette affaire et que la malveillance policière, ça veut dire que cette... l'information révélée.
Mélenchon
a un problème avec la police. Un jour elle tue, l'autre jour elle est malveillante. C'est juste inacceptable. C'est pas la police qui est en cause, c'est pas la police qui a tapé sur la femme de M. Quatennens.
Ouais, Jean-Michel Fauvergue, et après Élodie Huchard, sur l'avenir politique, finalement, aussi d'Adrien Quatennens. On peut déjà se poser la question.
Mélenchon a un problème vis-à-vis des forces de l'ordre, de la police en particulier, et il a un vrai gros problème de haine. Il a été condamné, d'ailleurs, pour ça. Je rappelle que Mélenchon a été condamné pour des violences de ce type-là lors d'une enquête. Il s'est opposé à une perquisition. Je veux juste faire un distinguo entre l'affaire Quatennens et Coquerel. Coquerel, il y a une plainte qui est déposée, il y a une enquête en cours. Donc, il, lui, doit bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'au bout. Voilà. Tandis que Quatennens vient d'avouer qu'il a frappé son épouse. Voilà pourquoi je disais qu'il faut qu'il démissionne de son poste immédiatement.
Parmi les réactions politiques, Mathilde Panot, la présidente de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, et également Sandrine Rousseau, la députée écologiste. On écoute.
Adrien Quatennens a pris une décision, et nous avons échangé sur cette question, qui est une décision, je crois, juste et sage. Sage à la fois pour lui, parce qu'elle va lui permettre d'avoir dans la sérénité ce temps pour gérer la situation de divorce dans lequel il est.
Est-ce que vous l'avez incité aussi, à prendre cette décision ?
Non, c'est lui qui prend la décision, nous en avons discuté. On apprend dans la presse cette histoire de main courante, il faudrait que dans la minute on puisse vous donner le plan de route qu'on va suivre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons discuter, et dans le mouvement, et dans le groupe parlementaire. Et Adrien Quatennens, je crois, a pris une décision qui permet d'envoyer un signal qui est important.
Il est indispensable qu'il quitte la coordination du mouvement, en effet. Je pense qu'il faut qu'il se mette en retrait de toute parole publique et voire en retrait du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Les violences conjugales, les violences envers les femmes sont absolument inadmissibles. Et il les a reconnues, donc dont acte, hein, parce que c'est pas si courant que ça, les personnes qui reconnaissent les violences. Dont acte, il l'a fait. Maintenant, il doit se mettre en retrait de toute parole politique. C'est pas possible. Il doit se mettre en retrait du groupe LFI, Voilà, c'est pas possible de représenter les hommes et les femmes et d'avoir une parole au nom des hommes et des femmes quand on s'est rendu coupable de tels actes.
Faut-il sauver le soldat Quatennens ? C'est ce que tente de faire péniblement, sans doute, la France insoumise, Élodie Huchard. Mais jusqu'à quand ?
Oui, là, c'est compliqué parce que, comme vous le disiez, quand on fait le parallèle avec Éric Coquerel, certes, des faits sont reprochés à Éric Coquerel, mais il les nie. Donc la présomption d'innocence, pour le moment, prévaut. Même si souvent, quand il s'agit d'adversaires politiques, la présomption d'innocence n'existe pas forcément chez la France insoumise. Là, c'est une situation totalement nouvelle puisque c'est lui-même qui reconnaît ses faits, c'est lui-même qui en parle. Et on voit Mathilde Panot un peu embêtée parce que quand elle dit « on ne va pas nous demander maintenant la feuille de route », c'est exactement, une fois de plus, ce qu'il demande systématiquement pour les autres partis. Et au sein de l'ANUPS, il va y avoir clairement un souci, même plus largement qu'au sein de l'ANUPS. On va avoir d'un côté le noyau autour de Jean-Luc Mélenchon qui sans doute va essayer de défendre Adrien Quatennens, mais jusqu'où ça va être très compliqué. On ne peut pas dire qu'on est totalement dans la défense des femmes et tolérer ce genre de comportement. Et puis on le voit là avec Sandrine Rousseau, ils sont alliés en théorie à l'Assemblée nationale. Elle demande déjà sa démission. D'autres vont sans doute le faire dans les médias dans les jours à venir. Donc même au sein du parti La France Insoumise, il va falloir tenir et ça va être compliqué parce qu'on leur demande quand même de défendre l'indéfendable. Et puis comme vous le disiez, il y aura des textes à l'Assemblée sans doute pour l'égalité femmes-hommes, contre les violences faites aux femmes. Lui-même, une fois de plus, l'a reconnu. Et c'est ça, en fait, qui change tout dans cette affaire. C'est qu'on est habitué à des affaires où il y a des faits reprochés à des hommes qui, en général, nient ces faits. Là, honnêtement, il en a parlé lui-même. Il a fait la transparence, sachant sans doute qu'un jour ou l'autre, ces faits, de toute façon, allaient être connu de l'opinion publique.
Et en effet, voilà pourquoi il a tout révélé plutôt que d'essayer de masquer éternellement cette histoire. Et il y aura très vraisemblablement à l'Assemblée, comme le disait Élodie, Jérôme Dubus, peut-être une perte de leadership aussi.
C'est vraisemblable. Des députés de la France Insoumise. Je crois que vis-à-vis de ses partenaires de la NUPES, il ne va pas pouvoir rester coordinateur. Ça me paraît difficile. Au minimum, à minima, coordinateur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand même de voir les réactions de M. Mélenchon. C'est très intéressant. Regardez ce qui s'est passé dans les trois affaires. Ce sont systématiquement les mêmes réactions. D'abord, on nie. Deuxièmement, on cherche un bouc émissaire. Et puis, troisièmement, on finit par avouer, contraint et forcé, sous la pression médiatique, etc., et sous la reconnaissance des faits par un certain nombre de gens, qu'effectivement, on ne peut pas laisser les gens en place. Mais c'est systématiquement la même méthode. On nie, on trouve un bouc émissaire. Là, c'est la police, effectivement, qui aurait révélé, soi-disant. Et puis, in fine, quand la pression est trop forte, on lâche. Oui. Voilà un peu la méthode de M. Mélenchon.
Adrien Quatennens s'étonnait en effet que l'information ait fuité. Voilà ce qui l'a mis dans cette situation et au pied du mur et obligé de faire ce communiqué. Merci Élodie Huchard. On reste avec nos invités bien sûr pour encore une demi-heure de débat dans quelques instants sur CNews. D'autres actualités, notamment en Grande-Bretagne avec l'événement mondial du moment, les funérailles d'Elisabeth II. À tout de suite.
Volkswagen ID.4. Toute la famille va être fière de passer à l'électrique. Essayez-le pendant les instants Volkswagen du 16 au 19 septembre.
Volkswagen. Comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec meilleur taux sur vos crédits, assurances et votre épargne pour faire les meilleures économies. Reprenez le pouvoir avec meilleur taux.
La dernière demi-heure de 90 minutes info, nos débats dans quelques instants et notamment les funérailles de la reine Elisabeth II demain avec une journée spéciale sur CNews. Mais d'abord un point sur l'actualité, Mickaël Dorian.
La ville de Paris interdite aux voitures ce dimanche jusqu'à 18h et hormis sur le périphérique, la capitale est réservée aux circulations non polluantes, vélo, roller, trottinette, skateboard, aux piétons et usagers des transports en commun, a expliqué la mairie dans un communiqué. Les deux roues et les véhicules électriques sont concernés par l'interdiction. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. La présidence tchèque de l'Union européenne appelle à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre. Une demande qui intervient après la découverte vendredi de centaines de corps en périphérie d'Izium, ville de l'est de l'Ukraine, reprise aux Russes. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a déclaré sur Twitter « Au XXIe siècle, de telles attaques contre la population civile sont impensables et odieuses ». Et puis un puissant séisme est survenu ce dimanche à l'est de Taïwan. La secousse a entraîné une alerte tsunami dans la région qui a finalement été levée. L'Agence nationale des sapeurs-pompiers de Taïwan a déclaré qu'une personne avait été tuée par la chute de machines dans une cimenterie de la ville de Yuli située à proximité de l'épicentre.
Et puis l'événement, c'est demain donc sur CNews avec cette journée spéciale consacrée aux funérailles d'Elisabeth II. C'est un événement planétaire. Régine Delfour est en direct du château de Windsor où la reine sera inhumée demain. Régine, comment va se dérouler cette journée spéciale de lundi ?
Oui, bonjour Lionel. Alors c'est à partir de 14h, que le cercueil de la reine quittera à bord d'un corbillard Londres. Il devrait arriver aux alentours un petit peu avant 16h à Windsor, parcourir ses 30 km. Et puis à 16h, c'est le début de la procession qui commencera en haut de cette longue haie qui mesure près de 5 km aux grilles donc du domaine. Et pendant cette longue procession, toutes les minutes, les cloches du château sonneront. Il y aura aussi des coups de canon et la famille royale et le roi Charles III retrouveront la procession quand elle passera au niveau du château. Cette procession s'arrêtera aux marches de la chapelle puisque c'est à 17h qu'il y aura un service, le dernier, l'ultime service funéraire en intimité où il y aura la famille royale et 800 membres, mais surtout des membres du personnel de la reine et du domaine de Windsor. Et c'est à 20h30, hein, toujours heure française, que la reine sera inhumée dans la chapelle Saint-Georges, dans une annexe de la chapelle où son père, le roi George VI, sa mère, la Queen Mum, et les cendres de la reine, de la princesse Margaret sont présentes. Le prince Philippe, son mari, lui est pour l'instant enterré dans le caveau royal et retrouvera la reine Elisabeth à la fin donc de ce moment. Et à 21h, heure précise, il y aura une minute de silence dans tout le Royaume-Uni.
Merci Régine Delfour, donc avec Charles Bagé au château de Windsor et toute la journée, donc journée spéciale sur CNews avec ses funérailles qui, Jérôme Dubus, semble être un événement mondial, planétaire, qui va marquer l'histoire. De mémoire, y a-t-il eu un événement aussi important?
Oui, je suis vraisemblablement, mais c'est vrai qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre d'événement. D'ailleurs, ce sont les premières funérailles nationales en Angleterre depuis quasiment 70 ans. Donc, l'Angleterre a eu trois grands monarques.
Churchill, quand même.
Oui, il y a eu Churchill, mais au niveau du monarque. Il y a eu trois grands monarques, c'était trois femmes. C'est pas un hasard. Il y a eu Elisabeth Ière, hein, qui a fondé la nation anglaise, quasiment, hein, en mettant en germe les principes de la puissance anglaise. Vous avez Victoria, évidemment, avec l'Empire. Et puis, vous avez Elisabeth II, qui a géré alors deux périodes compliquées, hein, puisque l'Angleterre n'est plus une grande puissance, n'était plus une grande puissance après la Seconde Guerre mondiale. Elle a dû gérer cette sortie, elle a dû gérer la sortie de l'Empire. Elle a eu 10 années, les 10 dernières années très compliquées, hein, le Brexit, des divisions politiques majeures, hein, 4 premiers ministres en 10 ans, c'est énorme, et c'est sûrement pas fini. Et puis des tentatives de sécession de la part de l'Écosse, avec ce référendum qui a été en 2013 évité de justesse, qui aurait été vraisemblablement positif pour une sortie de l'Écosse. Donc elle a eu une dislocation un peu politique ces dernières années, et je trouve qu'elle a plutôt bien géré. Alors, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu l'affaire Diana, en termes de communication, ça a été un loupé, on peut le dire aujourd'hui, hein, sans aucune récrimination. Voilà. Est-ce qu'elle a modernisé assez la monarchie? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire. On verra.
En tout cas, aujourd'hui, dans son décès, dans sa disparition, elle fait l'unanimité.
Absolument. Mais ça n'a pas toujours été le cas.
Mondiale. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais on a le sentiment, Jean-Michel Fauvert, que tout le monde veut en être. Les politiques, alors il y en a certains qui sont exclus, en effet, mais il va y avoir des centaines de politiques, de chefs d'État qui vont assister à cette journée demain.
Tout à fait. Il y a une espèce de sacralité qui est magnifique et qui est mondialement partagée. D'autant que la reine était la reine à la fois du Royaume-Uni, de l'Angleterre, du Royaume-Uni, du Commonwealth. Donc cette sacralité-là qui va être observée de la part du monde entier, mais ça va au-delà de l'ancien empire britannique, avec les personnalités de tous bords et de tout pays qui viennent. La première à mettre le pied sur le sol, ça a été Joe Biden. C'était couru d'avance dans la mesure où les liens évidemment avec les États-Unis et la Grande-Bretagne sont des liens de très long terme. On commence à voir, c'est ce qui m'a un peu interpellé, dès maintenant une modernisation peut-être de cette royauté, avec le roi qui est allé prendre un bain de foule, avec la réconciliation de la famille royale et des princes en particulier. Donc on voit déjà un petit mouvement, on va voir si ça continue, mais de modernisme, de modernité de cette royauté.
C'est mérité, Pierre Lelouch. Oui. Ces funérailles, j'allais dire nationales, non, ces funérailles mondiales, c'est mérité.
Oui, parce que ça a été quelqu'un de très bien, cette reine. Elle a commencé pendant la guerre comme ambulancière. C'est là qu'elle a rencontré le général de Gaulle. Elle a eu un parcours sans faute, à la fois de discrétion et de distance nécessaire, et en même temps d'affection de son peuple, qui lui rend, là, je regardais, ces visages de ces Anglais qui viennent se recueillir, qui ont attendu...
Ce sont des images en direct, Pierre Lelouch, ça veut dire que c'est sans discontinuer. Il y a même l'une des stars du football, David Beckham, qui est extrêmement connu dans le monde.
Ils ont attendu 22 heures.
Lui, il a fait 12 heures. Mmh. 12 heures dans la foule pour rendre hommage quelques secondes à Elisabeth II. Bon,
ça veut dire qu'elle a incarné l'identité de son peuple pendant 3 générations. C'est une leçon d'humilité pour nous tous. Bon, ce qui est un peu ironique, c'est qu'on est à Westminster, dont je rappelle quand même que le premier monarque était un Normand, Guillaume le Conquérant, qui est enterré là-bas aussi. Donc la boucle est bouclée. Donc, nous devrions peut-être réfléchir à nos propres incarnations et réfléchir à ce que nous vendons à notre peuple, hein, quand on parle des valeurs républicaines. On tartine sur les valeurs. Est-ce que ça fait une identité nationale? On glose beaucoup en France sur le royaume britannique, sur leur histoire. Mais au final, il y a cette identité qui est forte. Voilà. Je souhaiterais qu'en France, on ait aussi des vecteurs d'identité très... Heureusement, il y en a. On a eu la célébration de notre patrimoine ce week-end. Le patrimoine fait partie de l'identité où se reconnaissent les Français. Mais je crois qu'on aurait intérêt à... plutôt que se gargariser derrière les valeurs républicaines, sans arrêt penser aux valeurs de la France. Si déjà on parlait de la France, ce sera encore mieux que simplement un régime politique.
Elle reposera donc au château de Windsor. Joe Biden, le président américain, doit être là ce soir, effectivement, pour lui rendre hommage. Et puis des milliers d'invités venus du monde entier pour les funérailles sont attendus. Les yeux de toute la planète seront rivés pour la dernière fois sur Elisabeth II pour ce dernier hommage. Le Royaume-Uni prévoit un dispositif de sécurité hors norme. Détail avec Maxime Lavandier.
C'est une cérémonie minutieusement préparée depuis des décennies. Lundi, le Royaume-Uni mettra en place le plus grand dispositif de sécurité de son histoire, plus grand encore que celle des Jeux Olympiques de 2012.
Nous avons mis en place une énorme opération qui a été planifiée pendant de nombreuses années. D'ici lundi, nous aurons déployé plus de 10 000 agents. Il s'agit essentiellement d'agents de la Metropolitan Police, mais nous avons reçu l'aide de toutes les forces de police du pays et même de certaines forces plus éloignées.
Alors qu'un million de personnes sont attendues dans les rues de Londres ce lundi, 1 500 soldats ont été appelés en renfort, tout comme les services de renseignement.
Il y a beaucoup de visiteurs qui veulent venir à Londres lundi. C'est l'opération de police la plus importante de toute l'histoire de la police.
Des dizaines de chefs d'État et de têtes couronnées sont également attendus sur place. Il leur a été recommandé de voyager en équipe restreinte, d'éviter les jets privés pour ne pas encombrer les aéroports et de ne pas voyager en hélicoptère une fois arrivés à Londres. Si certains chefs d'État, à l'instar de Joe Biden, auront la possibilité de se déplacer en véhicule blindé, une bonne partie des autres invités devront se contenter de bus collectifs. Le tout, évidemment, sous l'œil attentif des forces de sécurité.
Les Anglais sont-ils vraiment opérationnels en matière de sécurité? Je vous pose la question, Jean-Michel Fauvert. Comment on procède pour un tel événement avec cet afflux? Et là, je pense aussi à ce qui est prévu pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024, avec des milliers, des centaines de milliers de gens qui seront dans les rues. Là, ça risque de ressembler un peu à ça aussi demain.
Oui, bien sûr. Ce sont des grandes cérémonies. Là, on sait qu'ils s'y préparent depuis des années et des années. Oui. Puisque malheureusement la reine n'est pas éternelle, donc il le prévoyait, il s'y prépare depuis des années et des années avec un dispositif qui est un dispositif qui repose à la fois sur le renseignement en amont, et on l'a vu avec les services de renseignement qui travaillent au national et à l'international aussi avec des renseignements parce qu'on ne peut pas exclure un risque d'attentat, parce qu'on ne peut pas exclure telle manifestation, etc. Et on travaille aussi sur au plus près du terrain avec la Met, la police londonienne qui a une dizaine de milliers d'hommes, donc c'est pas rien, et qui est renforcé par les autres polices de l'ensemble du Royaume-Uni, plus l'armée, on l'a vu, qui va travailler là-dessus. Et puis, je rappelle aussi que Londres est la ville où il y a le plus de caméras. Je suppose aussi qu'ils vont travailler avec des drones. Ils n'ont pas, eux, la CNIL qui empêche les policiers d'utiliser les drones. Donc, ils vont utiliser les drones, pour ce qui me semble assez logique. Et ils vont travailler comme ça, en collaboration. Le plus important, c'est que la main droite parle à la main gauche. C'est-à-dire qu'il y ait des postes de commandement où on transmet l'information. C'est ça le plus dur dans ces cas-là. Mais sur ces grosses opérations-là, en général, c'est bien rodé. Mais on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri de quoi.
En tout cas, ce sera au centre du monde. Londres sera la capitale du monde demain avec ses funérailles à suivre dès demain matin sur CNews, journée spéciale pour ne rien louper de cet événement mondial. Il y avait un petit peu moins de monde aujourd'hui dans la capitale française et Pierre Lelouch nous parlait des journées du patrimoine tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'il était très difficile de circuler. Il est toujours d'ailleurs très difficile de circuler à Paris. Pour venir ici notamment, mais enfin pour tous les Parisiens, les Franciliens notamment. Il y a aussi ce type d'opération dans d'autres villes, mais à Paris, la capitale le proclame, Paris respire sans voiture, c'est-à-dire que toute une partie de la journée, on interdit intramuros pour profiter d'une ville plus calme, plus vivante, plus respirable, c'est ce que dit la mairie. On interdit donc aux véhicules à moteur, aux véhicules thermiques notamment, de circuler. C'est une opération qui existe depuis 2015. Et pour être précis et pour donner une information trafic à celles et ceux qui nous regardent, c'est entre 11h et 18h. Donc vous avez encore une heure et quart où vous ne pouvez pas circuler dans Paris. Votre sentiment, Pierre Lelouch, sur ces mesures pour un Paris plus libre?
Vous parlez à un ancien élu de Paris. Hein.
Oui, mais c'est bien pour ça que je vous pose la question.
Un adversaire, mais alors total de Madame Hidalgo. Cette dame est une catastrophe pour la capitale, une catastrophe reconnue comme telle. Elle a même réussi à faire un score minable dans sa propre ville. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu sur son nom dans le moindre arrondissement.
et qui vit uniquement sur de la com à l'envers. Elle en rajoute sans arrêt. Donc là, on est dans un exercice de communication. Soi-disant, l'air est plus pur et ça va régler tous les problèmes de la ville. En fait, c'est un, pardon d'être vulgaire, un emmerdement de plus pour des gens qui n'en peuvent plus. La ville n'a jamais été aussi sale, aussi mal foutue, avec des chantiers partout, une circulation épouvantable. Conduire une voiture dans Paris, c'est devenu une punition. On risque à tout moment de rentrer dans un vélo,
une trottinette
ou je ne sais quoi. Travailler dans Paris, très compliqué. Garer sa voiture, impossible. À moins d'avoir un chauffeur comme Madame Hidalgo ou une énorme note de frais, c'est très difficile de fonctionner dans cette ville. Je suis très très malheureux comme Parisien. Et Dieu sait que j'adore ma ville, je suis un vrai Parisien. Je la vois décliner comme ça, vivement qu'elle s'en aille.
Voilà. Avant de céder la parole à Jérôme Dubu et Jean-Michel Fauvergue, qui partagent peut-être votre sentiment, on va le voir dans quelques instants, on a tout de même interrogé certains Parisiens ou certains usagers, plus exactement des piétons. Écoutez ce qu'ils avaient à dire au micro de CNews.
Je trouve que c'est très bien. Moi, j'ai pas de voiture, donc je fais partie de ceux qui profitent quand il y a plus de place pour les piétons.
On se disait justement, mais quel calme, mais c'est formidable.
Justement, on marche à pied, on traverse tout Paris à pied, donc c'est
nickel pour les journées du patrimoine.
Même s'il fait beau.
C'est un bon exemple. Ceci dit, nous avions besoin de notre voiture parce que nous venions de l'extérieur de la ville, enfin même de l'étranger.
On est moins dérangé par les bruits des voitures et on peut circuler plus facilement.
Je trouve ça extraordinaire. On n'est pas dérangé par les voitures et au moment où cette jeune femme prononce ses derniers mots, il y a une voiture qui arrive derrière parce que tout le monde n'a pas respecté ces injonctions de la mairie de Paris. Enfin, Jérôme Dubu, il y a des gens qui sont contents quand même. Paris est magnifique, il fait beau, on circule, il n'y a pas de voiture, c'est génial.
Nous étions ensemble avec Pierre Leloup sur les mêmes rangs au Conseil de Paris et donc on s'est opposé effectivement à cette politique qui est une politique de communication. Bon, uniquement de communication. Quand vous regardez un peu le bilan, c'est le deuxième mandat de Mme Hidalgo, donc elle a été élue en 2014, enfin premier mandat jusqu'en 2020. Quand vous regardez le bilan du premier mandat, on n'a jamais coulé autant de béton et de bitume sur les chaussées de Paris. Or, on sait que c'était créateur d'îlots de chaleur. Bon, et maintenant, elle vient nous dire que, effectivement, c'est la reine de l'écologie, etc. Tout ça n'a pas de sens, ça ne tient pas la route. Il y a effectivement un matraquage médiatique sur lequel il est très difficile de lutter. On a vu le résultat de l'élection présidentielle. Moi, je crois que maintenant, Mme Hidalgo, elle doit se faire très silencieuse et toute petite. Avec 1,75% des voix et très peu sur Paris, je pense que le temps est venu du silence et de la rédemption.
Jean-Michel Fauvergue, aujourd'hui, c'était silencieux.
C'était extrêmement silencieux, absolument. Encore que, il y avait certaines personnes qui étaient apparemment satisfaites, mais c'est pour lutter contre la pollution, c'est pour l'environnement, Jean-Michel Fauvergue.
Ah oui, c'est
ça avec un peu d'ironie, mais
c'est,
néanmoins.
C'est pour l'environnement, d'un autre côté.
C'est une journée par an, hein.
De notre côté, il y a une artificialisation, que Jérôme Dubu vient de nous dire qu'il y a une artificialisation importante. Donc, non, mais ce que je veux dire, les gens sont satisfaits sur l'intérieur de Paris, il n'y a pas de voiture. Moi, je serais à l'intérieur de Paris sans voiture, je serais satisfait aussi. Le problème, c'est qu'on est dans une citadelle assiégée. C'est-à-dire, vous regardez sur les périphériques, il y a des embouteillages partout. Moi, pour venir ici, puisqu'on est en périphérie, oui. En périphérie de Paris, pour venir ici, prenez les périphériques. Vous sortez des périphériques. Moi, j'étais en deux roues. J'ai eu du mal à passer. C'est embouteillé de partout. Et ceux qui font la circulation, c'est extraordinaire. Ce sont des agents privés de sécurité. Alors, je ne suis pas contre, parce que j'ai porté une loi qui s'appelle Sécurité globale, dans laquelle il y a un continuum de sécurité avec des agents privés de sécurité, mais dans leur rôle respectif. Là, ce n'est pas leur rôle. Ils sont en train de faire la circulation. Et alors, c'est un
bordel. Vous l'avez dit, mais ouais, on le pense tous. Donc,
c'est un truc fou. Et puis, on pollue parce que les voitures sont en train d'embouteiller autour et elles sont au pas.
Et ces agents de sécurité sont payés par la préfecture.
Pierre Lelouch, je voulais juste ajouter sur ce sujet.
Aujourd'hui, c'est un dimanche. Faire une fiesta de ce genre, à la limite, si le reste du temps, la ville fonctionnait, et qu'on dise, si on va prendre un dimanche et que tout s'arrête, et on rejoue le Covid pour se faire plaisir, etc., les petits oiseaux, parfait. Mais c'est comme ça tout le temps, je veux dire. C'est juste extrêmement difficile de se déplacer et de travailler dans la ville, et extrêmement stressant pour beaucoup de gens. Moi, ce qui me frappe, c'est l'agressivité qu'il y a entre les gens, parce que c'est très compliqué. Et en plus, c'est dangereux. L'insécurité a augmenté, les métros, c'est très difficile. Donc les gens n'ont pas vraiment le choix. Si vous voulez vivre la politique de Madame Hidalgo, il vaut mieux avoir une grosse note de frais ou les moyens de circuler
vivre à Paris
ou vivre ailleurs.
On a voté ou vivre ailleurs. Pour terminer en quelques secondes.
On a voté il y a plus d'un an dans la loi sécurité globale justement. Ouais. La création de la police municipale de Paris, plus d'un an, ils ne sont toujours pas là.
Mais dont elle ne voulait pas. Mais dont elle ne voulait pas.
Dernier point, Paris perd 15 000 habitants par an. Ouais. Voilà, depuis que Mme Hidalgo est là.
Effectivement, il y a un exode des Parisiens qui retournent en province notamment. C'est merci de nous avoir accompagnés. C'est un sujet dont on va parler sans doute dans quelques instants dans Punchline avec Patrice Boisfer. Merci à tous les trois. Merci. Et vous restez avec nous sur CNews puisque l'actualité continue bien sûr.
Maintenant, on va essayer.
Ce dimanche, Étaples-sur-Mer accueille la 27e étape du Big Tour. Marché clé pour l'économie française, la beauté est un secteur dynamique. Les Français achètent en moyenne 50 produits cosmétiques par an. Mais attention, certains produits présentent des risques pour la santé. Marie-Thérèse Desmarquet nous donne ses conseils.
Il est important de savoir qu'aujourd'hui, sur la majeure partie des produits cosmétiques qu'on utilise, il existe au moins un ingrédient toxique pour la santé reconnu à l'échelle internationale. Pour parer à ce problème, il est possible d'aller se renseigner sur des sites internet en découvrant la liste des ingrédients toxiques. Je vous invite à prendre par exemple votre gel douche ou votre shampoing et aller regarder les étiquettes et les ingrédients et notamment de repérer quels sont ceux qui sont toxiques ou pas pour choisir et utiliser et acheter du coup des produits en conséquence qui soient sains pour la santé et pour l'environnement.
Prochaine étape du Big Tour, ce mardi à Saint-Quentin-en-Yvelines.